Vous êtes sur RTL. RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, ravie de vous retrouver après cette soirée foot sur RTL. C'est à vous de jouer maintenant jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour partager avec nous vos interrogations, vos soucis, vos joies, vos chagrins. Toutes ces pensées intimes qu'il n'est pas toujours simple de confier à ses proches. Je suis là pour vous, à votre écoute. Caroline et Paul vont vous accueillir et vous guider. 09 69 39 10 11. C'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro non surtaxé. Marc Bisset est attentif derrière sa console. On attend plus que vous et vos réactions par SMS. N'oubliez pas de taper les trois lettres d'RTL au début de votre message, puis vous l'envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur Facebook, RTL-Parlons-nous. Bonsoir Cathy.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Ah, j'ai un écho alors que j'ai pas de radio, j'ai rien moi.
D'accord. Bon, on va essayer de régler ça peut arriver. Nous, on
je
vous entend très
en,
bien.
Je suis pas en main libre, rien du tout.
Ah, mais, moi, non, mais très bien. On va essayer de voir. Nous, on vous entend bien déjà, donc c'est l'essentiel. Alors, ma chère Cathy,
il y a longtemps hein, déjà qu'on s'est parlé. Hein.
Oui. Oui, oui.
Ah ouais.
Alors, on sait, alors pour, c'est la, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est la journée, aujourd'hui, c'était la journée internationale des chiens guides d'aveugles ce mercredi.
Je ne savais même pas en plus.
Ah, vous ne saviez pas ?
Non.
Bah alors, vous n'avez pas souhaité dire merci, un grand merci à votre petite fuchsia ? Vous lui dites tous les jours,
eh ben,
peut-être.
Non. Là, en fait, merci au niveau du chien guide. Déjà, non, parce que on a cette page-là est refermée maintenant.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est à la retraite.
Mais elle est toujours avec vous, non ?
Ah oui, elle est toujours avec moi, mais elle n'est plus chien guide.
Bah merci pour toutes ces années d'accompagnement.
Ah oui,
non,
c'est ça, bien sûr.
Elle
bien
a quel âge maintenant, fuchsia ?
Eh bien, écoutez, elle aura 11 ans. Elle est dans sa semaine d'anniversaire.
Déjà.
Elle aura 11 ans le 30 avril.
D'accord. Et alors, un chien guide, justement, c'est-à-dire à partir de quand il y a une date où il est à la retraite officiellement ou comment
oui,
ça
en
se
fait,
passe
on définit, en gros, on définit avec l'école. Bon, déjà, quand est-ce qu'elle a passé son bilan ? C'était à l'âge de 9 ans, hein.
D'accord.
À 9 ans, elle a. Oui, je demande en même temps.
Oui.
À 9 ans, elle a passé son bilan.
Oui.
Donc, on a rencontré le vétérinaire, le docteur Layani, d'ailleurs, qui est venu à l'école de chien guide, qui est quand même un petit peu connu, c'est pour ça que je le dis comme ça. Et ça m'a fait tout bizarre de le revoir parce que la fois d'avant, enfin la fois où je l'avais vu précédemment, c'était quand ma précédente chienne guide
personne était
partie.
La belle personne.
Et c'est magnifique. C'est le docteur Layani en fait qui l'a vu partir personne. C'était très très émouvant quand je suis arrivée dans l'école et que j'ai vu le docteur Layani qui était là. Et qui allait nous faire un peu un laïus sur la façon dont le chien vieillit, quoi, hein, tout ce qui se passe, l'arthrose, tout ça.
C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il est plus en état physiquement de pouvoir vous accompagner au quotidien.
C'est pas une question de plus en état, parce que en fait,
de travailler peut-être.
Comme je dis souvent aux gens, on n'a pas envie d'arrêter. C'est comme si on vous dit vous n'êtes plus capable de bosser. Il y a des tas de gens qui arrêtent et qui sont encore capables de bosser,
c'est
finalement.
Vrai. Oui.
Parce qu'elle dit comme Michel Drucker. mais c'est vrai, il y a encore plein de gens qui. Mais en fait, il y a un moment donné où il faut tout simplement. C'est,
Il y a un âge où il faut savoir s'arrêter parfois aussi.
Voilà, c'est bien de prendre des vacances aussi, je veux dire. C'est aussi le respect de l'animal, je veux dire. Il y a plein de gens, encore aujourd'hui, sur la plage, quelqu'un m'a dit « Oh là là parce qu'aujourd'hui, je me suis pour la première fois dit « Bon, d'habitude, je vais sur la plage et je
vous
me pose. »
Vous promenez au bord de la plage, alors.
Et là, je me suis baladée avec ma canne blanche et mon chien lâché. J'ai quand même fait un petit bout de plage comme ça et il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, mais pourquoi votre chien, il a plus son truc là comme avant ?»
Son harnais
et... Ouais, bah oui, c'est ça, la personne ne savait pas dire le harnais, mais il vous guide plus comme avant et tout. Et ben, je lui dis parce que le protocole a fait que c'est le moment d'arrêter.
Puis c'est bien aussi d'avoir des moments de liberté. Et puis peut-être la plage, vous connaissez bien, vous pouvez vous promener,
non,
il n'y a
plage,
pas d'obstacle.
Non, c'est très difficile une plage. Très, très difficile. Parce que d'abord, il y a des rochers, à certains... Il suffit d'abord, il faut aller droit. Hein. Deux, il y a des rochers, il y a des petits cailloux, il y a de l'eau à certains endroits qui coule. Et par exemple, moi, j'ai eu les pieds
trempés. À marée basse, oui.
Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est pas évident. Je vous jure que c'est pas évident. Il y a des algues aussi, vous marchez sur les algues.
Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement pour Fuchsia, là, donc, qui va avoir 11 ans,
non, c'est-à-dire... Bah moi, Fuchsia, je la garde, hein, déjà, ça c'est sûr. Parce que, en fait, justement, bon, elle a passé le bilan. Le bilan était donc positif. Ça voulait dire qu'elle pouvait encore continuer à guider un certain temps. Et l'année dernière. Juste la date avant son anniversaire, c'est-à-dire le 29 avril, son éducateur de retraite, Stéphane, m'a appelé pour me dire, bon voilà, on définit une date de retraite. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord sur la date. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, bon, février, non, allez, mars, bon, allez. Et moi, je voudrais bien qu'elle arrête pour ses 11 ans. Il dit, bon, allez, un mois avant ses 11 ans, ça vous va?
D'accord.
Allez, OK, on a négocié, quoi.
Oui, oui.
Et puis donc, il m'a dit, bon, on se dit, fin mars, ça y est, c'est fini.
D'accord.
Donc, j'avais presque 11 mois, en gros, pour m'y faire.
Et oui, parce qu'il faut vous faire à cette idée. Parce que se passe-t-il pour ceux qui... Vous la gardez, vous, Fuchsia. Mais ouais. Que se passe-t-il pour ceux qui ne peuvent pas garder leur chien? Parce qu'ils vont en accueillir un nouveau, le logement ne le permet pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent, finalement?
Le logement ne le permet pas. Et puis surtout, parfois, quand on est vraiment seul, c'est pas toujours facile
d'avoir deux chiens.
Certains médicaments. Si les gens bossent, c'est pas évident d'aller bosser avec deux chiens.
Bien sûr.
Ça, quoi.
Mais qu'est-ce qu'ils deviennent
Ils vont soit dans des familles qu'on appelle des familles de retraite, au même titre qu'il y a des familles d'accueil quand le chien est petit.
Ah, c'est bien ça.
Ou alors, il y a des gens qui ont leur famille, leurs parents, leurs tantes, leurs sœurs, leurs amis, des amis parfois aussi. Moi, ma première chienne guide, Cerise, elle a été chez des amis à moi, par exemple, à Fontainebleau.
D'accord. Ils ne finissent pas leur vie dans des refuges?
Non.
Ah,
enfin, peut-être que pour certains, ils finissent leur vie dans des établissements où il y a d'autres chiens, mais pas dans des refuges en tant que tel.
Oui, non, parce que ces chiens qui ont travaillé toute leur vie au service de l'humain, enfin d'accord, on leur trouve des familles, comme vous dites, il y a des familles d'accueil, parce que ça prend du temps pour, je crois que c'est 2 ans, c'est ça, mais vous allez me le dire, pour former un chien guide.
C'est ça, en fait, la première année, elle est en famille d'accueil. Il passe en gros le chien un an et demi en famille d'accueil, pendant lequel il apprend au pied, enfin tout le béaba d'un chien obéissant, on va dire. Et aussi à s'asseoir, par exemple, au passage clouté, c'est la famille d'accueil peut le faire. Et puis vers un an et demi, ça dépend, ça peut être plus ou moins tôt, plus ou moins tard, selon comment ça se passe avec le chien. Ah, j'ai toujours l'écho, c'est embêtant.
On peut les saluer d'ailleurs, hein, ces familles d'accueil, il y en a peut-être qui nous écoutent.
Ah oui, oui,
elles font un travail formidable. Enfin,
moi, je le dis toujours ça.
C'est vrai, et ça ne doit pas être simple d'accueillir un chiot, de lui donner les bases de l'éducation et à un moment de s'en séparer, en sachant que c'est pour la bonne cause, évidemment, hein, pour accompagner une personne malvoyante ou non-voyante dans sa vie. Mais sans ces familles d'accueil, finalement, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas de possibilité d'avoir ces...
Oui. Saluer les familles d'accueil et puis aussi saluer les éducateurs de chiens.
Oui, c'est vrai.
Parce que ça aussi, je vous assure que c'est un sacré boulot. C'est un boulot avec le chien et c'est un boulot avec l'humain aussi. Parce que...
Oui, il faut que les deux s'accordent aussi, c'est ça. Comment vous choisissez ? Est-ce qu'on choisit finalement son chien ?
Oui, on a certains critères.
D'accord, quels sont-ils ?
Alors, y a des gens qui veulent telle race et pas telle autre.
Ah bon ?
Il y a des gens qui vous diront, moi je veux un berger, je veux pas un labrador, moi je veux pas un border collie, moi je veux un flat coat.
C'est curieux d'avoir cette exigence d'une race. Alors je pensais d'ailleurs, on pense souvent, quand on pense chien guide, labrador ou golden retriever, mais finalement vous êtes en train de nous dire, Cathy, qu'il y a plusieurs races.
Il y a différents. Il y a des bergers, il y a des caniches, il y a le caniche royal.
Oui, j'ai vu passer un article là-dessus aujourd'hui, c'était étonnant.
Il y a des flat coats.
Je ne sais pas ce que c'est, cette race de chien.
Je ne sais même plus ce que c'est comme mélange. Enfin, comme.
Et fuchsia, elle est.
Fuchsia, elle est golden labrador.
Ah oui, d'accord.
Et moi, c'est mon premier golden labrador, puisque avant, j'avais eu Cerise qui était labrador noir.
Mm-hmm. Persane crème.
Après, j'ai eu Persane qui était labrador beige.
Oui.
Et Fuchsia. Oui, Caroline en a connu deux, oui. Et donc Fuchsia qui est donc golden labrador et donc qui a un caractère différent.
D'accord.
Parce que le golden, par définition, est très très sensible.
Ah, moi, nous, on vous perd un petit peu là.
Le golden est très sensible.
De tempérament, de caractère ?
Ah oui, très 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 sensible. Oui. Et Fuchsia, c'est marrant parce que physiquement, elle a beaucoup du labrador.
Mm-hmm.
Mais en caractère, elle a énormément de sensibilité. Mais un truc de fou, quoi. Enfin, c'est... Si elle entend qu'il y a un peu... Même si elle sent, si même on ne s'engueule pas, mais qu'elle sent la tension entre deux personnes, c'est fini. Hein. Elle va aller au fond de la pièce, se carapater. Elle est mal tout de suite, quoi. Tout de suite.
Ah oui, effectivement. Alors là, alors le mois d'avril.
Et moi c'est... qui suis un peu emportée.
Vous
de devez caractère.
Vous mesurer un peu, faire attention à elle.
J'ai dû apprendre carrément quoi.
D'accord.
J'ai dû apprendre à mesurer vraiment mes emportements.
À vous tempérer.
Oui, parce que les débuts avec Fuchsia ont été difficiles, très très difficiles.
Vous l'avez eu à quel âge, donc à un an ?
Donc Fuchsia, je l'ai eu à 2 ans.
2 ans, d'accord.
Et les débuts étaient donc très difficiles.
Pourquoi ?
Parce qu'elle était très 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 peureuse.
Ah oui, oui, c'est embêtant pour un chien guide.
Et alors, par exemple, quand je tapais un peu des pieds, enfin si mes pieds je tapais un peu plus fort, elle avait peur, elle se couchait.
Oui.
Alors, je me suis amusée dans des endroits que je connaissais bien à taper des pieds, mais en rigolant. Je tapais des pieds et je faisais ah, c'est vachement drôle. Pour qu'elle comprenne que, en fait, c'était du jeu.
Pour qu'elle s'habitue à vous, c'est ça.
Ouais. Ouais. Et j'ai essayé de transformer toutes ses peurs en jeu.
Et ça a bien marché.
Et ça, ouais. Elle garde toujours de la peur hein, parce qu'elle est comme ça, mais.
Oui, il y a un tempérament un peu craintif.
Voilà, de toute façon, elle sera toujours peureuse et il y aura toujours ça en elle. Mais ça en fait aussi un chien très, très, très sensible et elle ressent tout. Mais incroyable. Incroyable.
On peut imaginer l'attachement que vous lui portez parce que déjà, quand on a un chien, le lien que l'on peut créer avec lui, il y a quelque chose de tellement unique. Et quand ce chien vous permet, au fond, vous donne cette autonomie, cette liberté, cette façon d'aller et venir, de...
Ah, mais c'est énorme.
Oui,
c'est énorme.
Énorme. Ouais,
énorme,
je veux bien
énorme,
croire.
Énorme. Ouais. Et vous savez, moi, quand j'ai dit que je voulais la garder, parce que, en fait, j'avais essayé de passer justement dans votre émission il y a 2 ans.
Oui.
J'étais mal. ce soir-là. J'étais mal.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était juste avant le bilan gériatrique.
D'accord.
Et je m'en faisais un monde. J'étais terrorisée.
Vous aviez peur de quoi ?
Ah là là. Et j'avais mon conjoint qui me disait, mais ne t'inquiète pas, tu vas la garder, c'est sûr. Tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Tu as toutes les conditions. Mais j'avais une trouille,
Ça marche pas. Vous craignez, oui, ça doit être un déchirement pour les personnes qui ne peuvent pas la garder, parce que c'est vrai que forcément, il y a des contraintes. Parce que si vous parlez de peut-être là, vous dites, vous allez garder Fuchsia, ça veut dire que vous allez avoir un nouveau chien guide.
Ouais.
Qui doit arriver quand, alors ?
Eh ben, je ne sais pas.
Ah, vous ne savez pas. Oui, parce que j'ai vu aussi que les écoles de chiens guides étaient fermées pendant le confinement.
Ah, bah, ça a été un vrai problème. En fait, déjà, bon, moi, il faut savoir que je n'ai pas refait ma demande dans la même école.
D'accord.
Parce que l'éducateur de Fuchsia a créé sa nouvelle école, qui s'appelle la CGLV, qui n'est pas très connue donc, pour l'instant, qui veut dire chien guide pour la liberté visuelle.
D'accord.
Et qui est en région parisienne. Et comme c'était l'éducateur de Fuchsia, parce que j'ai rien contre l'école de Fuchsia, hein, d'où vient Fuchsia, c'est pas un problème d'école pour moi et de guéguerre entre les écoles, hein, pas du tout. C'est juste que comme il y avait l'éducateur de Fuchsia, je me suis dit, bah, je vais continuer avec l'éducateur de Fuchsia. Mm-hmm. Jeff, pour ne pas le citer. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que si jamais j'arrivais pas à avoir un chien avec Jeff, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que je dirais, bah, finalement, je retourne à l'école de Fuchs. Enfin, je ne peux pas le savoir, quoi. Hein.
Donc, alors, finalement, vous ne savez pas aujourd'hui quand est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'un nouveau chien.
En fait, déjà, je m'étais dit, le prochain chien ne sera pas un Labrador ou un Golden.
Pourquoi ?
Parce que je pense toujours à l'après. De la même façon que quand je commence ma vie avec un chien guide, je pense toujours à la retraite. Et quand je suis à la retraite, je me dis malheureusement, un jour, ce chien partira. Et je suis obligée d'y penser, je suis obligée d'anticiper dans ma tête parce qu'il faut que je m'y fasse. Et c'est aussi dur que ça puisse paraître, il faut.
Pour ne pas faire de comparaison, vous voulez dire ?
C'est ça, exactement.
Ah oui, je comprends, exactement. D'accord. Oui, ça c'est plus simple pour vous. Oui, je comprends.
Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que je passe à un autre modèle, quoi, si je puis dire. Et je sais que Fuchsia m'a tellement consolée quand personne est parti. J'en avais deux et ça c'était bien, si vous voulez. Que pendant quelques mois, j'ai les deux. Vraiment, si c'était à refaire aujourd'hui, je refais la même chose, quoi. Parce que c'est tellement, je pourrais pas être. En fait, c'est ce qui m'a. J'ai eu un laps de temps pendant lequel je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends un chien guide ? J'ai hésité longuement. Ça a été vraiment un casse-tête. Et je me suis dit, bah oui, parce que le jour où Fuchsia partira, je me vois pas être son chien comme ça, quoi.
Et vous avez eu toujours des chiens guides à vos côtés, c'est ça ? C'est...
Non. Quand j'ai eu Cerise, c'était en 89. J'avais 28 ans. Donc, vous voyez, j'avais passé quelques années sans chien guide.
Oui.
Et puis, entre Cerise et Persane, il s'est aussi écoulé 3 ans. Donc,
comment ça n'a pas dû être simple quand on est habitué justement à se déplacer, avec un chien, de se retrouver sans. Vous dites 3 ans sans chien, ça a dû être compliqué pour vous. Enfin, c'est toutes vos habitudes qu'il faut revoir. Vous avez repris une canne blanche.
Comme là, je reprends. Là, depuis le 16 mars. Oui,
elle peut quand même. Elle peut quand même vous guider, Fuchsia.
Elle a plus le harnais, Caroline.
Ah, mais comment ça c'est parce qu'on vous le reprend ?
Ah non, le harnais, il est posé là.
Mais pourquoi vous ne lui mettez pas en attendant ?
Parce que c'est fini, elle est plus chien. Ça veut enlever le harnais, ça veut précisément dire ne plus être chien guide.
Ah bon, c'est aussi strict que ça. Et alors,
Oui,
mais alors ça, c'est un peu.
Ah bah non, il faut savoir ce qu'on veut. Ou elle guide ou elle guide plus.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais
je veux dire, à un moment donné, il faut savoir.
Je ne savais pas, je découvre. Non, mais c'est-à-dire que c'est comme. Oui, c'est ça, c'est comme nous, on est à la retraite sinon on continue à travailler. Mais je me dis, en attendant l'arrivée d'un nouveau chien, ça veut dire que vous devez faire.
Ah ben non.
Mais même avec une laisse classique, elle doit bien vous...
Alors,
elle garde ses réflexes, au fond.
Évidemment que si demain...
des passages piétons, des obstacles...
Là, on sort, je lui dis à droite, elle va aller à droite. Je lui dis à gauche, elle va aller à gauche. Bien sûr que... Elle évite les choses, mais par réflexe. Bon, comme je disais à Paul tout à l'heure, de temps en temps, quand je cherche une porte et que je la vois pas, je suis à la porte.
Bah oui, bien sûr. Et les chiens aiment tellement faire plaisir en plus. Et puis au moins un humain vous dirait oh, je suis à la retraite, débrouille-toi. Le chien vous dirait il vous enverra jamais à paître.
Hein. Ah non, mais même quand elle est lâchée, elle a toujours un œil. Hein. Toujours.
Bien sûr, elle veille sur vous, oui.
Mais j'essaye de faire en sorte, de plus en plus, bien sûr, dans les débuts, d'ailleurs, l'éducateur de Fuchsia m'avait dit clairement, il faut de toute façon que tu aies un laps de temps où tu n'as pas du tout de chien.
Ah bon ?
Guide. Pour que Fuchsia, parce que sinon Fuchsia, le jour où un chien arrive, il lui prend sa place dans le harnais. Ah, mais je vais te dire qu'elle va faire la tête, hein.
Et oui, bien sûr. Il y a aussi, la réaction du chien.
Un jour, un nouveau chien arrive, il prend sa place dans le harnais. Tu crois qu'elle va le vivre comme ça, toi ?
Déjà dans votre vie. Et puis, par rapport au harnais.
Mais en plus, au harnais, c'est ça.
Oui. Non, mais j'avais pas pensé à ça. Vous avez raison. Oui.
Donc là, on est dans la phase transitoire. Bon, moi, je commence à m'y refaire, à être à la canne, finalement. Ça y est, ça va.
Oui, d'accord. Donc, donc elle est là, Fuchsia, mais comme elle est à la retraite, plus de harnais, vous avez repris la canne blanche.
Voilà, mais j'ai la chance que, comme elle est en bonne santé, pour l'instant, on fait encore tout ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de moment où je suis obligée de me dire, elle commence à avoir de temps en temps des petites boiteries. Mais il faut vous dire qu'elle est folle aussi. Fuchsia, elle ne joue pas avec une balle de tennis, Caroline. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, vous. Hein. Elle chope deux balles de tennis.
Ah oui, carrément.
Alors, vous en lancez une, mais tout le monde vous dit, mais comment ça se fait qu'elle n'y va pas ? Ah ben non, elle n'y va pas. Elle attend la deuxième.
Oh là là, oui, toujours plus, quoi.
Elle fait l'attraction
et
de
elle
la
est,
place.
Et elle a gardé, sa vitalité, même à 11 ans, elle est en pleine forme.
Mais elle fait des bonds énormes. Mais des quatre pattes, elle décolle tout le corps.
Vous en avez pris soin, aussi. Je voyais que j'ai vu un chiffre, 2 ans, normalement c'est 2 ans, j'avais lu de formation, et ça a un coût, un chien guide, c'est 25 000 euros.
Ouais,
nous,
on ne paye pas.
Ah ben oui, c'est très bien. Oui, et il faut savoir d'ailleurs, on peut en profiter à l'occasion de cette journée internationale des chiens guides, que les associations qui forment ces chiens guides, vous avez cité celle de votre éducateur, il y a aussi la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d'Aveugles.
Oui, en fait, mais c'est passé.
Qui vivent grâce aux dons de particuliers, c'est ça en fait. Hein.
Et puis il y a des gens comme le Lions Club, tout ça.
Oui, des grosses associations, c'est bien qu'ils financent aussi cela.
Et Cathy... Fuchsia vient de l'école de chiens guides d'aveugles de Paris.
D'accord. Cathy, il y a Kenza qui vient d'appeler le standard parce qu'elle vous écoute. Elle écoute notre échange et elle voudrait se joindre à nous pour parler d'une autre dimension. On l'accueille ensemble ?
Oui, bien sûr.
Alors, bonsoir Kenza.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous voulez...
Bonsoir.
Cathy est là aussi,
oui,
vous écoute.
Bonsoir Cathy.
Vous voulez rajouter un autre angle à notre échange.
Oui, parce que moi je ne connaissais pas ce problème-là et je l'ai appris c'était l'année dernière. En fait, je cherchais... j'avais perdu mon chien d'une tumeur au rein et ça faisait 8 mois que je l'avais perdu. Je voulais un petit peu attendre... à faire mon deuil, comme on dit, mais un petit peu laisser passer de l'eau sous le pont.
Ben oui.
Et après, j'ai cherché à prendre un chien. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne t'adresses pas à l'école des chiens guides ? Parce qu'ils ont des chiens réformés.
Et voilà, je sentais le truc là.
Qu'est-ce que c'est ? Ah bon, moi, j'avais rien vu venir, Cathy. Qu'est-ce que c'est, les chiens réformés ?
Peut-être que Cathy connaît le problème.
Ce sont des chiens qui ne peuvent pas être chien guide pour une raison X, Y, soit parce qu'il aboie trop, soit parce qu'il a peur, justement. Ça peut être.
Voilà.
Mais ils ont quand même la formation, donc ils connaissent les réflexes. Voilà. D'accord.
Oui. Alors la mienne, je me suis retrouvée avec une petite chienne. Alors, je l'ai eue mi-janvier dernier.
Petite, c'est
une petite. Non, mais j'appelle une petite chienne. Une chienne moyenne, c'est une Labrador. Hein.
D'accord.
Une petite femelle Labrador.
Oui.
25 kilos, donc elle a sa taille adulte, puisque quand je l'ai eue mi-janvier, elle avait un an.
Ah oui, d'accord.
Et elle a été réformée. Alors, on m'a pas. J'ai eu une réunion avec la dame de la famille d'accueil.
Oui.
Chez qui elle a grandi. Et la responsable de l'école de chien guide de ma région. Mais on n'est pas entré dans le détail pour m'expliquer pourquoi
elle avait été réformée. Oui.
Mais elle a été réformée et elle a été proposée à l'adoption. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce problème-là, parce que je voulais informer, parce que moi je connaissais pas, j'avais jamais pensé qu'il y avait des chiens qui pouvaient. Je pensais qu'ils étaient tous chiens guides au bout du compte, mais non. C'est comme à l'école,
qui ne réussissent pas l'examen.
Qui ne réussissent pas l'examen. Et moi j'ai eu donc cette chienne-là qui maintenant a 16 mois. Et alors elle a des réflexes de chien guide, bien entendu. Hein. Mais moi elle me sert pas de chien guide. Je ne suis pas non voyante.
Ah, vous n'êtes pas non-voyante, donc
mais
voilà,
non.
C'est bon.
Bah non,
voilà. Ah bon, on ne propose pas des chiens réformés aux non-voyants?
Non.
Ah, mais d'accord, mais il vaut mieux le préciser, d'accord.
Tout à fait. Et donc, j'espère bien, parce que la mienne est un peu fofolle.
Elle est jeune en même temps. Si
elle est jeune. Alors, elle est très propre. Elle a des réflexes, par exemple, quand on se promène dans la rue, elle est du côté du bout du trottoir et elle descend systématiquement. Si elle a envie de faire ses besoins, elle descend dans le caniveau.
Elle est très propre.
Vous avez de la chance, hein, parce que Fuchsia, elle n'est pas comme ça.
Mais c'est comme les gens, il y en a qui sont plus propres que d'autres.
Alors, le seul souci, c'est que dans la commune où j'habite, les trottoirs sont étroits.
Oui.
D'ailleurs, comme tous les trottoirs de nos villes, d'ailleurs, ils ne sont pas faits, ni pour les poussettes.
C'est vrai.
Ni pour les non-voyants.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des voitures. Alors, des fois,
c'est risqué.
Je lui tire dessus et elle fait sur le trottoir. Alors, forcément, je ramasse et je me dis, j'avais oublié que c'était pour ça qu'elle descendait. Voilà, donc elle a des réflexes comme ça. Le seul souci que j'ai avec elle, c'est qu'elle ne revient pas quand je la rappelle.
Ça c'est embêtant.
Donc je l'ai lâchée, je ne la lâche plus maintenant.
On comprend pourquoi elle a été réformée, votre petite chienne, qui par ailleurs est charmante et délicieuse.
Ah non, mais elle est
évidemment, un chien guide qui partirait sur la plage, vous imaginez, Cathy?
Elle part et elle ne revient pas.
Débrouille-toi.
Je connais des chiens guides qui n'ont pas un bon rappel. Hein. Moi, ça n'a jamais été le cas de mes chiens, mais j'en connais. Hein.
Je croise un monsieur là où j'habite qui est gentil. C'est un jeune homme. Il a un chien guide, un Labrador blanc qui ressemble à votre personne, Cathy. Qui n'en fait un peu qu'à sa tête. C'est-à-dire qu'il croise un autre chien, il va au devant, il frétille, il saute. La dernière fois, il passait dans une rue au soleil. Le chien s'était carrément installé sur le trottoir, étalé tout son long. Il prenait un bain de soleil. Donc, je me suis dit, celui-là, il y en a des réfractaires un peu, hein, voilà, c'est comme nous. Mais vous avez bien fait de dire, donc Kenza, il y a les chiens réformés, mais qui peuvent être à l'adoption et qui doivent être de merveilleux chiens.
Mais elle est formidable pour quelqu'un qui n'est pas non-voyant. Mais j'ai déjà pris 3 vols planés et imaginez un non-voyant qui se prend des vols planés dans la rue.
Oui, non, il vaut mieux pas imaginer. En tout cas, c'était l'occasion, cette journée qui s'achève, hein, puisque c'était mercredi 28, la journée internationale des chiens guides d'aveugles, de vous parler, ma chère Cathy, de vous entendre également, Kenza, et de rendre hommage aux familles d'accueil et à tous ces chiens, finalement, qui vous accompagnent dans votre quotidien. Merci beaucoup à vous deux. Et une belle caresse à Fuchsia et à votre petite chienne.
Je vous dis quand est-ce que j'aurai le nouveau, alors.
Avec plaisir, vous nous rappelez. À bientôt,
merci,
alors.
Merci
à
bientôt. Beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne nuit. On vous réveille parce qu'on est à vos côtés jusqu'à 1h ce soir exceptionnellement. On aimerait bien que vous soyez là, les amis. 09 69 39 10 11.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir Florence.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir, bienvenue.
Merci.
Alors, je vous écoute, ma chère Florence.
Alors, ben écoutez, j'ai mis un petit moment, enfin, ça fait un petit moment que je vous écoute, que j'ai envie de vous appeler pour me raconter, pour vous raconter mon histoire, qui est complexe et qui est difficile à raconter. Et je me suis dit que ce soir, c'était le bon moment. C'est pour ça que je vous appelle.
D'accord. Ce soir, vous vous sentiez... Voilà, c'était le bon moment pour vous. Ben, écoutez,
tout à fait.
Ça tombe bien, en plus, vous voyez, puisque... On est là, on peut vous accompagner pendant un petit moment.
Bon, alors je vous explique, Caroline. En fait, je vis en union libre depuis 22 ans avec donc mon conjoint.
Oui.
En 2005, on a eu notre première fille aînée et en 2008, notre seconde fille.
Oui.
Quand nous nous sommes rencontrés, c'était en vacances et nous avions une relation... J'irais à une relation le week-end uniquement, puisque nous habitions à une centaine de kilomètres l'un de l'autre. Nous étions... alors, le week-end, souvent, je disais à ma meilleure amie, je ne le reverrai pas parce qu'il était franchement détestable. Et je me disais, il ne reviendra pas. Et chaque week-end, il revenait.
Il était détestable ?
Oui, il n'était pas aimable. Sincèrement, il n'était pas... Non,
ah
il n'était
bon
franchement pas... Non, non, passait pas vraiment de très, très bons moments. Et puis il revenait, et puis donc on a continué notre relation, bon un petit moment pendant plusieurs mois, et puis bon là ça allait un petit peu mieux, et je lui ai dit, écoute, comme les mois, les années passent, il faut quand même savoir ce que l'on va faire, puisque moi j'avais 33 ans à l'époque, et lui est plus jeune que moi, il en avait 28.
Oui.
Et donc, nous avons donc décidé de vivre ensemble. Donc, je suis allée m'installer chez lui.
Alors, ça veut dire qu'il était devenu plus aimable à vos yeux?
Oui, un petit peu. Oui, plus aimable.
Un petit peu plus, vous dites.
Un petit peu plus.
Mais vous étiez quand même prête. Il fallait quand même, parce que si vous lui disiez, bon, maintenant, on fait quoi? Et que vous avez pris la décision de vivre ensemble. Et puis d'ailleurs, après, vous avez eu vos filles. C'est bien que quand même, vous étiez tombée amoureuse et vous...
Ah, moi, j'étais... Oui, totalement. J'étais amoureuse. On peut dire le mot. Oui, j'étais amoureuse, tout à fait.
Il avait des bons côtés quand même, cet homme.
Oui, il y avait des bons côtés. Bon, c'est vrai qu'il est, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a un job intéressant, qui est agréable en société et qui physiquement est bel homme.
D'accord.
Voilà. Et donc c'est pareil. Quand nous avons décidé de vivre ensemble, c'était difficile aussi pour lui de prendre cette décision. C'était oui, non. Donc nous sommes installés ensemble et au bout de 4 mois il rentrait de plus en plus tard de son travail, j'en avais assez, et quand je lui ai dit écoute là c'est plus possible, à 21h30 on n'a pas de soirée ensemble, et elle m'a dit écoute non, finalement on va se séparer, c'est pas possible la vie à deux, et il a cherché donc un appartement pour moi. Les appartements qu'on a visités, alors moi j'étais pas motivée parce que j'avais pas du tout l'intention de m'installer seule, et donc je suis repartie vivre chez mes parents, et au moment de récupérer mes meubles, il m'a dit non, finalement je trouve qu'on est pas mal ensemble, j'ai fait une bêtise, etc. Donc on s'est installés ensemble.
Oui, les débuts ont été très chaotiques quand même.
Très chaotiques, oui, tout à fait. Et puis ensuite, on a décidé donc en 2004 d'acheter un pavillon.
Oui.
Et là, c'est pareil, quand on a eu la réponse, c'était non, on ne s'entend pas assez, c'est pas possible. Et puis moi, je ne voulais pas d'enfant à l'époque, parce que je voulais une vie indépendante, sans contrainte.
D'accord.
Et donc c'est ce qui lui a fait un petit peu peur, parce que lui voulait des enfants. Et puis finalement cette maison, on a fini par l'acheter, et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué de lui annoncer, parce que tout changement est délicat pour lui. Et finalement il a vraiment bien pris et il était heureux.
J'ai été heureuse de cette paternité future.
Voilà. Oui. Pendant 10 ans. Je le trouvais transformé, bien, vraiment bien, posé dans... Ce n'était que...
Oui, vous avez eu 10 ans de stabilité, finalement.
À peu près.
Même avec vous, ça se passait mieux dans votre couple.
D'accord. Tout à fait. Il était, je dirais, plus équilibré.
D'accord.
Ensuite, en 2018, en fait, j'ai ma fille aînée, qui un samedi soir vient me voir et me dit « Oh là là, maman, c'est grave, avec le téléphone à la main ». Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle invente? Et en lisant donc les échanges de textos sur son téléphone, ben, je me suis rendu compte qu'il avait une liaison.
Ah
et
oui
puis comme je suis du genre à creuser, à chercher, etc., je lui ai pris son téléphone pendant donc c'était un téléphone de travail et le lundi quand il a repris son activité, je lui ai dit non, moi je garde ton téléphone parce que j'ai peur que tu l'appelles et que
et il que appelle cette contact. Autre femme.
Voilà.
Et puis mais pourquoi votre fille, enfin bon, c'est peut-être anecdotique au regard de ce que vous allez me dire par la suite, mais pourquoi elle regardait les messages sur le téléphone de son père?
Parce qu'en fait, elle était partie en voyage linguistique en juillet et oui. Ils s'échangeaient des messages via WhatsApp. Et c'est oui. pour ça, en fait, qu'elle voulait regarder, quelques mois après, elle voulait regarder les conversations qu'ils avaient eues.
Oui. C'est pas voilà. simple pour elle parce que. Elle vient ben, vous annoncer cela.
Tout à fait.
Oui.
Et donc, alors, j'ai gardé le téléphone, j'ai creusé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait non seulement eu des relations, avec cette dame, et puis ben, également avec d'autres personnes. Et il m'a dit qu'il allait sur un site. J'ai le droit de le nommer ou pas?
Oh, c'est pas utile. Il vaut mieux éviter de faire de la publicité pour
voilà,
les sites.
Pour ce genre de... Voilà, enfin, c'était un site pour gens mariés, créé par des femmes.
Ah oui, d'accord, oui.
Voilà.
Donc, pour des rencontres, justement, sans lendemain.
Tout à fait, conjugal. Sans lendemain, et là, j'ai découvert que non seulement il avait eu des relations avec des femmes, des hommes, des ex, des... Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Des dames qui travaillaient aussi dans son... dans la même sur le même lieu de travail. Donc j'ai découvert tout ça. Alors moi qui suis vraiment complètement aux antipodes de tout ça, je suis tombée vraiment de haut.
Mais tout en même temps, enfin, c'est-à-dire qu'il avait des relations multiples.
Oui, tout à fait. Avec les risques que ça engendre, évidemment. Hein. J'ai encore eu de la chance de ne pas m'attraper une maladie quelconque. Et puis là, j'ai été dévastée, mais vraiment dévastée.
Oui, je comprends.
Donc, on a suivi... alors, j'ai voulu, si vous voulez, protéger ma famille, protéger mes enfants. Donc, j'ai gardé tout pour moi. J'en ai parlé à 3 amis qui étaient éloignés du milieu familial et qui ne risquent pas de dévoiler, si vous voulez, quoi que ce soit à notre entourage familial ou vraiment amical proche.
3 amis sûrs aussi,
voilà,
de confiance.
Voilà, exactement. Oui. Et donc, on a suivi une thérapie de couple.
Mais c'est vous qui lui avez demandé, parce que... Enfin, comment ça s'est mis en place? Comment il a... Quand vous étiez dévastée, et lui, quand...
J'ai envie de vous dire... Il a toujours été addict, en fait. Quand je l'ai connu, il avait...
Addict à quoi?
Alors, au départ, c'était la cigarette. Bon, l'alcool, il aime bien.
Oui.
Après, ben, j'ai... En fait, ce qu'on a fait... après, c'était, ben, j'ai découvert au sexe. Hein, alors donc, quand j'ai découvert ça, je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu entreprennes différentes démarches, donc thérapie de couple. Donc on était d'accord tous les deux. Et puis je l'ai emmené aussi à l'hôpital Brousse où il y a un addictologue hein, qui est très connu, très réputé.
C'est vrai.
Qui lui a fait donc passer un test. Et qui ensuite m'a reçue après une fois qu'il a eu passé ce test et qui m'a dit bah, votre mari est addict au sexe et en plus il est maniaco-dépressif
ce qui peut expliquer d'ailleurs dans les troubles bipolaires il y a fréquemment des addictions et notamment une sexualité
débridée.
Oui, ça peut, hein, c'est pas après,
oui, bien sûr, c'est
mais
pas...
oui, on peut retrouver ce symptôme-là dans les états de manie, notamment. Vous n'aviez pas constaté dans son comportement, il y avait cette instabilité, mais il n'avait pas des épisodes où il était particulièrement exalté, excité, vous ne constatiez pas ça?
Si, ça peut arriver, notamment dans le travail, vous voyez, où il y a des moments où il se trouve totalement nul, et puis il y a des moments où c'est le meilleur.
C'est ça. Oui, c'est des montagnes russes, quoi. Il descend très bas, et il peut monter très haut aussi.
Tout à fait. Et puis, il a aussi suivi une thérapie avec, pareil, un psychothérapeute réputé pour les addicts au sexe. Et au début, il me parlait un petit peu des entretiens qu'il avait avec son thérapeute. Et puis ensuite, je lui posais plus de questions parce que j'avais plus envie de savoir.
Oui, vous avez eu raison.
J'avais plus envie. Et puis, il y a une quinzaine de jours, en fait, moi, j'étais en déplacement professionnel. Et puis, ça s'est très mal passé, en fait, avec l'une de nos filles qui m'a appelée. Et là, je lui ai dit, écoute, passe-moi ton père. Et on s'est engueulé. Et puis là, je lui ai dit, écoute, moi, j'en ai assez, quoi. Ça fait des années que je te porte à bout de bras, que je te protège. Là, j'en ai marre. Et puis, quand je suis rentrée de mon déplacement professionnel, il m'a dit, écoute, ça ne peut plus durer. Tu n'es pas heureux, je ne suis pas heureux, et les filles ne sont pas heureuses, donc on arrête là. Je pensais qu'avec tout ce que je t'avais fait en durée, tu serais partie la première. Et comme tu ne pars pas, je prends la décision de partir. Donc c'est, je dirais, une autre encore trahison, parce que je me dis, je l'ai aidé. Donc évidemment, on n'avait plus de relation depuis... depuis 2 ans, parce que moi je pouvais plus, mais malgré tout on avait constitué un patrimoine important, parce que j'ai toujours travaillé énormément pour la famille, et donc je voulais préserver ça. Et puis je me disais que finalement au quotidien c'était vivable, et je me suis dit, bon, vu l'âge que l'on a maintenant, c'est bon. Et puis donc c'est difficile. Et
vous avez quel âge?
55 ans.
C'est pas si vieux.
Non, mais bon, c'est pas si jeune non plus.
Non, certes, mais
non.
Finalement, vous n'étiez pas très heureuse depuis quelques années dans cette relation.
Non, ça c'est sûr. Et puis après, vous voyez, j'arrive encore, comme il n'avait pas changé son code, j'allais constamment voir sur le téléphone. J'étais toujours aux aguets en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Où il va? Est-ce que je peux avoir confiance? Et la psychologue de couple m'avait toujours dit, vous savez, parce qu'elle a voulu, à un moment donné, nous recevoir séparément, pour faire le point avec l'un et avec l'autre. Mmh. Et là, elle m'a dit, vous savez, il ne changera jamais. Elle dit, on change quand on est adolescent, on peut avoir une sexualité vers l'un ou l'autre sexe, mais on est en construction. Elle dit, là, maintenant, il va avoir 50 ans, ça fait des années qu'il vit de cette façon-là. Il a une famille pathogène, il a été élevé dans une famille vraiment spéciale. Et donc, il s'est construit comme ça. Elle dit, et c'est vrai qu'elle nous a suivis quand même pendant quelques années.
Oui.
Elle est assez
pessimiste sur l'avenir.
Voilà. Tout à fait. Et elle m'a dit, vous ne le changerez pas. Alors, j'avais posé cette question-là à l'addictologue, au médecin psychiatre addictologue. Et lui, il m'avait dit, si jamais tel était le cas, on ne serait pas là.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que si c'est lié, alors il parle aussi de troubles bipolaires, puisqu'on parlait auparavant de troubles maniaco-dépressifs, aujourd'hui il y a une autre appellation, mais ça recouvre la même réalité. Je vous disais, il y a beaucoup de conduites compulsives dans les états de manie. Si déjà on peut un peu stabiliser l'humeur, traiter cela, et que la personne en a le désir, il y a des choses qui peuvent évoluer. Rien n'est jamais... Sur le plan de la construction de soi et de la sexualité, c'est vrai que ça se construit pendant l'adolescence. Enfin, ça se construit d'ailleurs depuis l'enfance, au fond. Mm-hmm. Et évidemment, pendant l'adolescence, jeune adulte. Après, c'est vrai qu'on ne change pas d'orientation comme ça, de désir. Mais quand on est dans quelque chose de compulsif et de symptomatique, ça peut évoluer quand même.
Mm-hmm. Alors moi, il me disait en fait que, vous voyez, même quand il était au travail, et Dieu sait s'il aime son travail, il ne pensait qu'à ça. Il y a 2 ans,
il ne pensait qu'à ça. Il était obsédé par des images. Il lui fallait, c'était presque devenu une drogue pour lui. Mais la sexualité a, il y a quelque chose, ça fonctionne un peu comme un anxiolytique, comme un shoot. Mm-hmm. Évidemment, comme toutes les drogues, dans toutes les drogues, il y a la dimension, dans toutes les dépendances, de plaisir, évidemment, dans la sexualité, on est bien là-dedans. Mais après, on le voit avec parfois la masturbation. Il y a des hommes qui, même au travail, ne peuvent s'empêcher de consulter des vidéos pornographiques et qui, certains disent qu'ils vont dans les toilettes se masturber. Mais, donc, ils prennent des risques énormes parce que c'est envahissant. Et souvent, derrière, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse derrière ça. Vous savez, la sexualité, elle est au creuset des pulsions de vie et des pulsions de mort. Alors ça peut être pour le meilleur, ça peut être pour le pire. Mmh. Il peut y avoir quelque chose d'assez destructeur aussi. Oui. Donc est-ce qu'il avait lui le désir de, au fond de, parce que est-ce que ça le, est-ce qu'il était mal au fond dans alors, ça, parce que ce qui peut amener désirer à changer, c'est qu'à un moment on en est au fond malheureux. Il y a quelque chose, on se rend compte que ça ne va pas bien. Vous voyez,
c'est... je sais pas. Je pense pas parce qu'il a jamais. Vous voyez, il a. Au début, oui, il pleurait parce qu'il avait peur que je le quitte.
Oui, il a eu peur de ça quand même.
Il a eu peur. Oui.
Il était malheureux d'envisager que ça pouvait conduire à l'effondrement de votre couple.
Voilà.
D'ailleurs, il a accepté la thérapie de couple, enfin.
Oui. Oui, tout à fait, mais il m'a toujours dit, quand on sortait d'une séance de thérapie, moi, je ne veux, ce que j'ai peur, c'est que je ne veux pas te rendre malheureuse, alors que c'était déjà fait, mais je ne veux pas te rendre malheureuse en te faisant croire que je peux m'en sortir et te dire dans 2-3 ans que je n'y arrive pas et que ben on arrête notre relation.
Il était lucide en même temps. Il était lucide sur lui-même, c'est-à-dire.
Tout à fait. Oui. Et là, je me demande justement. Il me le dit pas, bien évidemment, mais je me demande si actuellement, ça fait 2-3 ans qu'il a pas, avec grâce à son thérapeute, avancé sur le sujet et se dire que finalement, c'est la vie qu'il souhaite.
Je ne peux pas répondre. Lui seul pourrait le dire, mais vous. Qu'éprouvez-vous ? Parce que il vous dit à un moment, je pensais, j'ai noté, c'est ça, il vous a bien dit, je pensais qu'avec tout ce que je t'ai fait endurer, tu allais partir. Oui, vous avez enduré beaucoup, Florence. Dans quel état êtes-vous ? Parce que malgré tout ça, vous sembliez, vous dites c'est une deuxième trahison quand il vous dit au fond, je ne suis pas heureux, je ne te rends pas heureuse, il vaut mieux nous séparer. Et là, vous me dites que vous le vivez comme une deuxième trahison.
Oui, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, si vous voulez, de le soutenir à bout de bras, de le protéger.
Peut-être trop, d'ailleurs.
Peut-être.
Au fond.
Peut-être.
À quel prix pour vous, finalement ?
Alors après, comme je suis hyper indépendante et j'ai toujours mené mon chemin de vie, j'en ai énormément souffert
pendant un an. Oui.
C'était terrible, mais vraiment, c'était terrible.
Oui, c'est assez dévastateur, la découverte que vous avez faite, cette profusion.
C'est difficile parce que je me disais, voyez, j'aurai un cancer, je peux en parler, les gens me plaindront. Alors que là, c'était tellement honteux que je ne pouvais en parler à personne. Parce que vous, même dans votre entourage, après, vous avez toujours des amis pour se moquer en disant ben, t'as vu un tel, t'as vu ce qu'il a fait, ou t'as
oui,
vu
c'est ça, malheureusement.
La femme d'eux.
Oui, ça peut être sujet à sarcasme.
Bien sûr, complètement.
C'est dans ce sens que vous parlez de honteux.
Complètement.
Quelque chose,
tout à fait, parce que c'est pas du tout l'image qu'il donne. Pas du tout, du tout, du tout. C'est l'image d'un bon père de famille. Avec un job à responsabilité, avec... voilà.
Oui, mais derrière les images, vous savez. Parce que vous ne viviez pas avec une image. Vous viviez avec cet homme... Ah, vous viviez avec une image.
La preuve, c'est que j'ai vécu avec un homme que je ne connaissais pas.
Oui.
Vous voyez, par exemple, il me disait récemment, je me suis souvenue, il y a à peu près 3 ans, 2-3 ans de ça, il allait dormir chez ses parents, une nuit par semaine. Je trouvais ça un peu bizarre. Et là, je lui ai demandé dimanche, je lui ai dit, mais quand t'allais dormir chez tes parents, t'allais coucher à droite à gauche, en fait. Et il me dit non. Ben, en plus, moi, j'étais rassurée parce qu'il y a une téléphonie chez ses parents où... du téléphone fixe de ses parents, ou alors il me téléphonait avec son portable, mais j'entendais ses parents derrière, la voix de ses parents.
Donc il allait bien voir ses parents.
Oui, mais alors j'ai dit, mais je te demande pas ça, je te demande avant ce que tu faisais, mais elle me dit oui, là, j'allais ailleurs.
Voilà. Mais quand je vous demandais, quand je vous disais, vous ne vivez pas avec une image, je voulais dire, il y a l'image que les autres, les amis, la famille se font de votre couple, mais vous, cet homme, il était dans votre quotidien. C'était, vous le, c'était au-delà de l'image, de sa réussite sociale. Mais j'entends dans votre réponse qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui s'est effondré chez vous.
Ah, mais moi, tout s'est effondré. Mais vraiment tout. J'ai été dévastée. C'était vraiment de la sidération.
Et en plus, au fond, il est malade. Enfin, j'utilise volontairement ce terme. Vous voyez ?
Vous voyez, j'ai appelé son meilleur ami parce que je découvrais tellement de choses qui étaient totalement irréelles.
Mais son meilleur ami était au courant ?
Non, de rien.
Lui-même le cache, enfin, ce qu'il vit.
Il savait quand même qu'il me trompait, mais il ne savait pas tout. Il ne savait pas tout. Donc là, il m'a dit, aide-le, il est malade.
Oui, mais enfin, certes, mais d'abord, enfin, ça remet quand même en question beaucoup de choses, parce que ça ne dédouane pas non plus de tout, et en tout cas, vous, l'effet que ça a sur vous, vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de main. Même si derrière tout ça, on voit qu'il y a des attitudes très compulsives, au fond, il n'y a pas de relation suivie. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de liaisons où ce qu'il recherche, c'est la quête il y a quelque chose d'obsessionnel, de compulsif dans ces rencontres sexuelles, mais furtives. Au fond, c'est avec vous qu'il y avait un attachement.
Alors, est-ce qu'il était vraiment attaché ?
C'est ça aussi que vous remettez en question, c'est ça qui est
douloureux. Oui, et puis, vous voyez, ce qui me fait peur actuellement, c'est de me dire, est-ce que j'ai été assez à l'écoute ? Parce qu'il arrive quelquefois à vous faire culpabiliser. Il me dit, de toute façon, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est finalement de ma faute parce que j'étais pas assez à l'écoute,
C'est ce qu'il vous dit ?
Oui, il me dit que s'il a fait ce qu'il a fait, c'est que mais c'est par rapport à mon comportement qui a fait que.
Oui, mais là, non. Donc, ça vous fait douter ?
Non, parce que j'en ai discuté aussi avec la psychologue de couple qui m'a dit non. Parce que il y avait quelque chose. Alors, c'est vrai que je peux être directive parce que j'ai mon caractère, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites. Que je fais beaucoup de choses et que lui ne faisait pas grand chose, et quand je lui demandais quelque chose, il avait l'impression que je le commandais. Donc ça a toujours été un peu conflictuel. Mais elle m'a dit, de toute façon, si jamais ça n'avait pas été dans votre couple, il aurait eu éventuellement, il serait tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Mais de là, aller faire tout ce qu'il a fait,
c'est ça.
Non.
Elle a raison, c'est très différent. C'est-à-dire qu'après tout, à un moment, il y a des aspects de la personnalité chez l'autre qui ne nous conviennent pas ou plus. La relation de couple, on peut se sentir un peu affaibli, diminué, ou en tout cas, on ne peut pas exister comme on le voudrait. Et à ce moment-là, on peut rechercher ailleurs ou se mettre dans un état de disponibilité qui fait qu'on fait une nouvelle rencontre. Mais là, on parle d'autre chose, là. Il y a quelque chose de très compulsif. Et finalement, il ne cherche pas à être... Le couvert, c'est toi qui me rends malheureux, tu n'es pas assez à l'écoute. Donc, je saute sur tout ce qui bouge à l'extérieur, homme, femme,
Il y a eu des prostituées sans papier aussi. J'ai oublié ça.
C'est intéressant d'ajouter sans papier, parce qu'on revient...
Sans papier.
De toute façon, les pauvres, enfin, c'est tel que je plains. Vous voyez, déjà, c'est pas simple. Et en plus, ça veut dire que... Mais là, dans son attitude compulsive, peu importe. C'est-à-dire que professionnel, enfin, ça va avec sa problématique. Mais vous voyez bien qu'il ne cherchait pas une relation, un lien. Il cherchait du sexe. Et qu'à un moment, le soulager... d'une angoisse, de quelque chose, et évidemment qui ne règle rien dans le fond et qui donc est perpétuellement recommencé. Donc là, c'est trop facile de vous mettre ça sur le dos. Mmh. Et c'est une façon de nier les difficultés. Mais bon, certainement, quand on... Comment dire? Parfois, la culpabilité, il est on préfère, c'est un mécanisme de défense, la projeter sur l'autre que de faire un peu son introspection.
Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de me dire. Mais ce qui me fait peur, bon, il a été 2 ans en thérapie, je pense qu'il va continuer. Je me dis, peut-être qu'il va être heureux. Et ça me rendrait vraiment triste, vous voyez, parce que c'est moi encore qui, dans l'histoire, va être, je vais devoir faire un deuil. Là, il veut la garde alternée d'une des deux filles, hein, pas des deux. Parce que avec l'aîné, en fait, avec l'aîné, il a des relations depuis plusieurs années très très conflictuelles, vraiment très conflictuelles. Donc là, il aimerait, alors qu'il s'en est, mais jamais occupé.
Oui, mais vous vous rendez compte, enfin, là, c'est terrible pour les, ça va, enfin, pour votre fille aînée, c'est très dur. C'est en gros, toi, je te veux pas. Mais je veux bien ta sœur. Et pour votre seconde fille, ça la met dans une situation impossible, infernale.
Ah ben elle est tiraillée entre lui et moi.
Bah oui, parce que c'est finalement papa me veut bien toi, mais c'est et sa sœur, il s'en occupe pas. C'est très culpabilisant. Non, mais ça c'est vous n'avez pas à tout accepter.
Ah ben non. Donc
Là aussi, pas de remise en question. Au lieu de dire j'ai une relation difficile avec ma fille aînée et finalement essayons de l'améliorer. Enfin, ça peut arriver, c'est une adolescente. Elle a quel âge aujourd'hui ?
16 ans.
Elle a 16 ans. Bon, ben voilà, au lieu de se dire, finalement, c'est une façon de régler le problème, c'est, c'est difficile avec elle, donc je ne la veux pas. Je fais comme si elle n'existait pas. Non, c'est pas possible, ça. Et même pour les deux sœurs, pour la relation entre les deux sœurs. Ça serait préjudiciable. Oui, mais alors, vous êtes extrêmement ambivalente, ce qui est compréhensible au vu de ce que vous avez traversé. Déjà, beaucoup d'auditeurs, à l'image de Théodora, de Louis, dès le début de votre relation, vous avez dit qu'il était détestable. Donc, c'est un mauvais présage pour une vie de couple. Alors, on peut dire aussi... qu'aujourd'hui, vous parlez de lui à l'aune de ce que vous savez aussi. Mm-hmm. Ça pèse dans la balance, j'imagine. Mm-hmm. Vous n'en auriez peut-être pas parlé comme ça pendant ces 10 ans, après la naissance de votre fille, où vous dites que là, vous aviez trouvé une stabilité ou finalement un certain équilibre.
C'est vrai, j'étais heureuse, parce que je disais aussi à ma meilleure amie, il a vraiment changé, ça l'a aidé à se stabiliser, à se structurer.
La paternité, et il avait beaucoup investi, votre fille, à ce moment-là.
Pas vraiment, non, parce qu'au moment de la naissance, je lui demandais d'être présent et il rentrait toujours très tard.
Mais par rapport à, on sent qu'à la enfin, on voit bien, vous lui en voulez, et vous avez des raisons de lui en vouloir, votre vie de couple était réduite un peu à néant, vous dites depuis 2 ans, vous n'aviez plus de relations intimes, et le dialogue était quand même devenu difficile, vous étiez en permanence sur le qui-vive, à essayer de voir dans son téléphone s'il n'était pas en lien avec des femmes, et en même temps, vous dites, alors qu'il vous annonce, je trouve que là, lui, il fait preuve... au fond d'une certaine sagesse, et pour lui et pour vous. Dire, je ne suis pas heureux, je ne te rends pas heureuse, il vaut mieux nous séparer. Et au fond, vous avez passé plus de 20 ans ensemble, donc on ne se sépare pas comme ça, mais évidemment, j'entends ce que vous me dites, de dire, la thérapie va peut-être l'aider, il va peut-être aller mieux, et au fond, c'est pas vous qui allez en profiter alors que vous l'avez soutenu pendant des années. Voilà. C'est ça qui est dur à...
Et ça me fait peur parce que je sais pas si j'ai... Enfin, la thérapeute de couple m'a dit, il y a une quinzaine de jours quand je l'ai appelée parce qu'on avait arrêté il y a à peu près 3-4 mois la thérapie. Et là, je l'ai appelée pour lui dire que finalement, on allait se séparer. Et je lui ai dit que c'est ma crainte qu'il arrive à être heureux avec quelqu'un d'autre. Et là, elle m'a dit, elle le connaît bien, il ne sera jamais heureux. Elle me dit, si jamais vous le voyez heureux, ce sera qu'une façade.
Oui, elle est ouf, c'est lapidaire. Elle ne sait pas, elle qui le suit.
Si, elle nous a suivis dans le cadre d'une thérapie de couple.
Oui, c'est différent. C'est-à-dire qu'elle vous suivait tous les deux, mais ce n'est pas son thérapeute. J'imagine non. que sa thérapeute ne parlerait pas comme ça. Mais cela dit, elle a pu un peu voir sa problématique. C'est humain, ce que vous dites. C'est, il y a quelque chose, évidemment, de dire, bon, vous avez enduré beaucoup de choses, et vous dites, ça se trouve, lui, il va s'en sortir. Finalement, ce qui compte, c'est vous, actuellement. Et je pense que vous, ça serait important que vous continuiez un peu un accompagnement. Peut-être d'ailleurs avec celle qui, de thérapeute de couple, puisque ça s'est arrêté, avec qui vous parlez, vous, et qui peut continuer à vous suivre à titre individuel, pour alors, vous aider refuse. À traverser ce moment. Pourquoi ?
Je lui ai demandé, elle refuse parce qu'elle elle me dit que c'est un lieu qui était réservé au couple, donc ça, je vais avoir de nombreux souvenirs.
Ah d'accord, voilà. Oui, c'est-à-dire que parfois, ce qui peut arriver dans une thérapie de couple, où le couple est reçu pendant quelques séances, et puis finalement, il y en a un qui est plus en demande, et le thérapeute fait de la thérapie individuelle avec celui qui est le plus en demande ou le plus en souffrance. Mais là, si vous avez fait une thérapie pendant 2 ans, c'est long à... ce qu'elle vous a dit s'entend tout à fait. Mais en revanche, elle pourrait certainement vous donner les coordonnées de consoeurs, de confrères, qui pourraient vous accompagner dans ce moment un peu difficile. Parce que, vous voyez, enfin, dans ce que j'entends, vous vous êtes un peu perdu, vous. Vous avez beaucoup porté.
Oui.
Vous avez beaucoup porté. Et aujourd'hui, vous vous dites, c'est humain. Et c'est quelqu'un d'autre qui va en récolter les fruits. Je pense que, pour le coup, c'est pas si simple. Je pense que c'est pas si simple parce qu'il y a quelque chose d'une problématique assez complexe quand même, au vu de ce que vous me décrivez, de la personnalité de votre mari. Et vous, il faut que vous soyez aidé et que vous partiez du constat que, depuis quelque temps, et quand même, vous n'étiez plus si heureuse que ça, voire plus du tout heureuse. Alors continuez à quel prix pour vous, finalement? Voyez? Ou dans cette inquiétude, et où vous, en tant que femme aussi, c'est quand même très douloureux, comme vous dites, déstabilisant. Et que c'est important que vous vous retrouviez, vous. Peut-être qu'au fond, vous pouvez vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant.
Certainement.
Vous voyez ? Et pourquoi vous fermez la porte à cela ?
Il y avait quelque chose qu'il m'avait dit pendant les vacances au mois d'août, je me souviens, on était détendus, on était bien, et puis il me dit, on essayait de reconstruire, et il me dit, tu sais, de toute façon, moi, j'aime que le sexe hard, le sexe normal ne m'intéresse pas.
Il est lucide. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est terrible, c'est que finalement, même à vous, j'espère qu'il a pu l'évoquer, mais la notion d'attachement, il est pris dans ses pulsions. Vous voyez, même là, dans ce qu'il vous dit, c'est violent au fond.
Complètement.
Que finalement, le lien à l'autre, c'est pas du lien dont il parle, c'est de la pulsion. C'est du hard. Il faut quelque chose qui, bon, il parle de ses fantasmes, mais au fond, quid de vous? Et de ce qu'il a vécu avec vous, et de ce que vous avez représenté pour lui. Et je pense que ça, c'est important pour vous d'en parler un peu. Que vous ne restiez pas uniquement sur cette dimension-là. Parce que oui, vous découvrez un étranger, mais ça n'enlève pas non plus ce que vous avez vécu et quand même construit à un moment donné ensemble. Maintenant, vouloir à tout prix prolonger ce lien, au vu de ce qui s'est passé, et surtout au vu de ce qu'il vous dit aujourd'hui, de lui, franchement, c'est pas ce qu'on peut vous souhaiter.
Oui, non, mais
très honnêtement.
Aujourd'hui, de toute façon, il ne me parle plus de lui.
Mais c'est mieux. Comment... C'est mieux pour vous. C'est mieux parce que finalement, vous me parlez plus de lui que de vous. Et il faudrait revenir un peu à vous, Florence. Parce que tout ça est extrêmement déstabilisant, perturbant, ce que vous avez vécu, douloureux, même de remise en question dans votre féminité. Alors qu'en fait, ça ne vous enlève rien, c'est lui, c'est sa problématique à lui. Mais vous avez besoin de revenir à vous, je trouve, voyez ? Et évidemment, pour le moment, vous ne voyez que sous son angle à lui. Et il faut que vous reveniez à vos désirs, à vous. Et à un moment, ça a tout contaminé les siens. Et vous perdez un peu. Et ça serait bien que vous ayez un espace à vous pour être accompagné. Ça fait beaucoup réagir. Avant qu'on se quitte, je vais vous lire des messages. Il y a Johanna qui dit « Moi, je suis tombée sur un pervers qui me disait souvent « C'est ta faute si je fais ça ». Par chance, je ne suis pas restée longtemps avec lui. » Alors, il y a Louis qui dit « Bah oui, rejette la faute sur vous parce que c'est un pervers. » Il y a également Camille qui dit « Ce genre de personnes ne changent jamais, ne pensent qu'à eux et leurs intérêts. » Attention à ce qu'ils ne vous fassent pas de reproches. C'était avant ce que vous nous confiez vous rendait responsable de son comportement. Il y a Lisa qui dit « Mon ex, c'était pareil. Un coup oui, un coup non, un coup peut-être. Il voulait une femme, des maîtresses. Et ça a été très dur puisqu'il a fini par avouer à Lisa qu'il ne l'avait jamais aimée. Louis dit qu'il a du mal à se respecter lui, il ne vous respecte pas vous, il est important que vous preniez soin de vous. Il y a Stéphane qui dit que vous êtes une personne attachante et il faut vous retrouver et puis vous avez le droit de vouloir vivre quelque chose de mieux et de tomber quelqu'un qui vous aimera. Vraiment.
C'est gentil.
Alors, il y a Violaine qui dit « Personnellement, je redouterais de confier ma fille à un addict sexuel, fût-il son père ?» Non, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger parce qu'il peut avoir effectivement ces pulsions qui le débordent. Et pour autant, ne pas être un père incestueux. Il ne faut pas tout confondre.
Oui, j'ai posé la question.
En revanche, s'il est structuré, vous pouvez en parler sur un mode pervers. Là, prudence par rapport à vos filles, pervers moral. En tout cas, cette histoire de « je veux bien la deuxième, mais pas de l'aînée », ça c'est niette. C'est inconcevable et très préjudiciable pour vos filles, aussi bien l'aînée que la deuxième. Vraiment. Demandez à cette thérapeute de couple, elle vous donnera sûrement les coordonnées de quelqu'un de bien qui va pouvoir un peu vous accompagner. Vous avez besoin de parler de vous, avant tout, et de tout ce que vous venez de traverser d'extrêmement perturbant. D'accord ?
Tout à fait. Merci.
RTL.
Caroline Dublanche.
Parlons-nous.
Bonsoir Rosie.
Bonsoir Caroline. Je suis ravie de pouvoir passer à l'antenne, car je vous écoute tous les soirs depuis de nombreuses années.
Je vous remercie beaucoup, vraiment. Merci.
Et j'apprécie beaucoup votre émission et l'analyse que vous faites lors des entretiens. Excusez-moi, je suis un peu émue.
C'est très gentil. Malheureusement, il nous reste que 10
très
minutes
peu de temps,
et vous avez, actuellement beaucoup de chagrin.
Oui, je vis une expérience un petit peu difficile.
Oui.
C'est parce qu'on parlait des chiens guides et que j'ai entendu Cathy qui était très dynamique, très bien.
Oui.
Moi, j'ai un chien guide depuis, ça va faire 7 ans. Un golden retriever qui s'appelle Oumi. Et depuis le mois de janvier, Oumi a un cancer. Donc, elle a été opérée 2 fois.
Oui.
Et là, elle subit des séances de chimio.
Ah oui.
Comme pour les gens, on va dire.
Oui.
Et j'essaye de tout faire pour elle parce que son cancer a de grandes chances de récidiver. Et donc, c'est assez compliqué de savoir s'il faut faire de la chimio, pas en faire. Je me suis vraiment torturée l'esprit. Et puis j'essaye de faire le mieux pour elle. Et là, ce soir, elle n'est pas à la maison parce que je l'ai laissée ce matin à l'école vétérinaire.
Oui.
On a fait un bilan pour voir s'il n'y avait pas de métastase. Il n'y avait pas de métastase.
Donc c'est une bonne nouvelle.
Oui.
C'est rassurant.
Et du coup, je l'ai laissée pour sa chimio. Je vais la récupérer demain. Donc c'est vrai que c'est toujours au niveau émotionnel très dur.
C'est un déchirement,
la séparation est dure. Et puis, il la pique. Ils ne peuvent plus la piquer dans les pattes. Ils la piquent congédulaire. Donc, c'est dur.
Comment elle supporte la chimio?
Elle est juste géniale. Les vétérinaires me disent elle est extraordinaire parce que même quand ils mettent le cathéter, elle ne dit rien. Elle est très, très coopérative. Enfin, elle est vraiment... là-bas, tout le monde l'adore parce que c'est un chien qui n'a aucune agressivité, qui est très gentil.
Ils doivent en prendre soin. Ils savent à quel point aussi elles comptent pour vous.
Ils sont tous très gentils. Oui.
À l'école vétérinaire, ils prennent énormément soin. Ils font tous les traitements de pointe. Et puis, ils savent à quel point aussi c'est un chien guide et elle est importante à vos yeux, évidemment.
Oui, ils font attention parce que la première chimio, il y avait eu des effets secondaires... beaucoup d'effets secondaires. Du coup, à la deuxième chimio, ils ont changé la molécule, ils ont diminué les doses, et ça va beaucoup mieux, c'est pour ça que je continue.
Mais vous avez raison.
J'aurais pas voulu qu'elle souffre si ça avait
été.
Voilà.
Oui, ça je vous comprends.
Je veux le mieux pour elle, mais je veux pas d'acharnement, voilà.
Non, mais vous savez, il se trouve que j'ai discuté. Ben, quand on a des chiens, on discute beaucoup, hein, aussi. Ça permet un lien avec les gens. Et je connais deux personnes qui ont fait faire de la chimio à leur chien. Et une première, c'est une petite Jack Russell qui l'a supportée bien, mais elle me disait qu'à chaque fois, c'était un déchirement pour elle de la et de la laisser, évidemment, pour faire la chimiothérapie. Mais, vous savez, je crois que les animaux sentent aussi. Enfin, il y a quelque chose que... Il y a quelque chose qu'on les soigne, finalement. Ouais. Que
c'est... Mais c'est dur, parce que, vous voyez, moi, quand je la laisse, elle va à la prise de sang avec les étudiants, très bien. Après, les médecins l'auscultent, enfin, les vétos, excusez-moi, l'auscultent. Et elle est très, vraiment, elle monte sur la table, elle a pas sa lèvre, rien du tout, elle est super.
Oui, merveilleuse,
et au moment où on l'emmène en hospitalisation, elle fait trois pas et elle se jette dans mes bras, et ça, c'est horrible.
Oh,
le quand elle fait ça. Elle l'a pas fait cette fois-là, j'ai eu de la chance, mais.
Oui, elle s'habitue peut-être un peu.
Au niveau émotionnel, c'est.
Oui,
très,
c'est
très
dur. C'est un ça vous déchire le cœur, parce que oui. Mais elle vient peut-être vous dire, bon, peut-être. Qui sait, elle vient se rassurer ou peut-être vous consoler. Ils sont tellement sensibles.
Ils ont peut-être raison, hein, c'est vrai. Mais ils ressentent tout, de toute façon, elle doit ressentir mon stress.
Elle ressent. Et finalement, peut-être qu'elle vient, elle, se rassurer, mais vous consoler dans le même mouvement.
Peut-être.
Écoutez, je vous dis, il y a une dame qui avait... maintenant, cette petite chienne est décédée, mais de vieillesse. Elle avait 14 ans et demi, je crois. Labrador. Je prenais des nouvelles et elle lui a fait faire de la chimio, mais pendant des mois, elle est morte de vieillesse et de sa belle mort, on va dire.
Le
cancer était totalement en rémission. Chimio avait très très bien fonctionné sur elle. C'est la première dame que j'avais rencontrée, je ne savais pas. Je vais vous dire qu'on faisait de la chimio sur les chiens.
Oui, écoutez, il y a de la chimio, alors j'ai rencontré plein de chiens là-bas, de toutes races, de toutes sortes, et j'ai rencontré un chien qui venait donner son sang.
Ah oui.
Alors les chiens, ils donnent leur sang comme les gens.
À
partir d'un an, les gens qui ont des chiens,
d'accord,
qui sont en bonne santé, ils peuvent les emmener donner leur sang.
Oui, mais voyez, vous m'apprenez quelque chose.
Voilà, moi non plus, je savais pas.
Et là, donc ce soir,
la maison est vide, elle est à l'école vétérinaire.
Et vous la récupérez quand, votre
demain.
Oumi, hein, c'est ça?
Oui.
Oumi, vous la récupérez demain après-midi. Elle est fatiguée, après, elle a besoin de repos, ça lui fait du stress.
La dernière chimio, non, enfin, c'est pas le jour qui suit, c'est deux jours après.
D'accord.
Mais la dernière chimio, je trouve qu'elle l'a mieux tolérée que les deux premières. Mais je fais attention, les jours qui suivent, je la laisse au repos, on ne prévoit rien.
Sûr,
je la fais pas travailler, vous voyez.
Oui.
Mais bon, elle est... Enfin voilà, quoi, j'essaye de m'adapter à elle. Mais en même temps, quand elle ne me guide pas, ça ne lui convient pas. Elle adore sortir le harnais.
Et oui.
Ils sont toujours... voilà. Mais bon, je fais quand même attention tout de suite après la chimio pour faire attention à elle, quoi. Je la préserve. Parce que c'est des chiens, vous savez, pour nous, ils feraient n'importe quoi, hein. Ils seraient capables de nous guider, même s'ils ne sont pas en forme.
Oui.
Donc,
C'est pour ça que c'est tellement fort, le lien que l'on peut avoir.
Ah oui, moi,
avoir.
Je suis fusionnelle avec elle. Je suis vraiment...
Bon, je comprends.
C'est mon premier chien, mais c'est très fort.
Je comprends.
Là, c'est très dur.
Oui, on se dit, c'est vraiment... j'imagine votre chagrin quand vous avez appris cette nouvelle. Mais déjà, ça veut dire qu'elle réagit bien à la chimiothérapie, qu'il n'y a pas de métastase.
Oui,
donc, elle peut tout à fait...
C'est toujours dur les jours de chimio.
Oui.
Et après, quand je vois qu'elle est en forme et tout, je vais bien, il n'y a pas de problème.
Soir, on a parlé, c'était mercredi, la journée internationale des chiens guides. Vous l'avez amenée là pour sa chimio, donc forcément, vous la savez seule là-bas.
Les soirs où elle n'est pas là, je sais qu'elle est seule là-bas, qu'elle est dans une cage, c'est une grande cage, hein, mais voilà. c'est quand même pas comme à la maison, quoi.
Bah, bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non, ça vous.
Par contre, il s'occupe bien d'elle. Je sais que, voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà.
Oui, puis quand elle vous retrouve, elle est heureuse, elle retrouve sa maison, ses odeurs, et ça la tranquillise. Puis vous savez, je crois que j'en parlais avec le vétérinaire et qui me disait que les animaux sentent aussi qu'on les soigne et ça leur fait du bien.
Oui, je pense qu'ils comprennent pas mal de choses.
Oui.
Bon, j'espère juste que je fais le bon choix et que voilà, je fais pas tout ça pour rien, voilà.
En tout cas, vous faites au mieux, vous lui donnez le meilleur. Franchement, moi, je sais qu'on me dirait ça pour ma petite chienne, je ferais comme vous.
Oui, c'est vrai que vous avez un chien.
Ah oui, aussi. Oui. Ouais. Oui. Donc, je ferais comme vous parce que je me dirais non, il faut essayer. Et d'autant plus, je vous dis, avec cette dame, et elle avait une chienne merveilleuse. Un golden, une bonne patte, ce côté pâteau qu'ils ont jusqu'au bout.
Oui, bah les golden,
et en fait, elle était guérie, je vous dis, elle a perdu, mais elle avait 14 ans et demi et pas du tout de son cancer. C'était bon, bah, elle était arrivée, elle était très âgée, voilà. Mais c'était donc ça marche bien et je comprends que vous le tentiez, bien sûr. Voilà, c'est votre façon de prendre soin d'elle. Elle prend soin de vous.
Voilà, tout à fait. Je voudrais le mieux pour elle.
Bah, évidemment.
C'est vrai que si elle n'avait pas supporté les autres chimios, j'aurais pas continué.
Oui, je comprends
aussi.
Je
veux pas d'acharnement, voilà. C'est pour que le chien soit complètement, voilà, pas en forme, ça rime à rien.
Et en plus, le vétérinaire me disait que les animaux réagissaient mieux à la chimiothérapie que les humains.
Oui, alors ça, c'est ce que les vétérinaires pensent.
Oui.
Mais je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où quand c'est des chiens lambda qui sont dans des maisons, s'ils ont des moments de fatigue, les maîtres ne les voient pas forcément. Mmh. Nous, notre chien, il est constamment avec nous.
Et oui.
Et du coup, on ressent... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
donc, moi, à la suite d'une chimio, je pensais qu'elle allait bien. J'ai voulu faire un trajet. J'ai pris le métro, tout ça. Et en fait, la pauvre... Eh ben, elle était fatiguée, donc bon, ben voilà.
Oui, vous le savez maintenant. Oui, il peut y avoir une fatigue. Il y a la cravate rouge qui dit tous mes encouragements les plus chaleureux à Rosie et à Oumi pour traverser cette épreuve. Il y a Cathy aussi qui dit merci pour ce témoignage très touchant. Il paraît que certains cancers sont plus facilement guérissables pour les animaux et on croise très fort les doigts pour Oumi. Voilà, que tout se passe au mieux.